VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 19 avril 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Nanit Salani.
Nous commençons par les titres.
En Centrafrique, la CPS, Cour spéciale, la Cour pénale spéciale, ouvre son premier procès ce mardi à Bangui.
De nouveaux hélicoptères de combat et radars russes.
En Tunisie, sitting de réfugiés africains réclamant d'être évacués.
La Russie a lancé une offensive majeure dans l'est de l'Ukraine ce lundi, annonce Kiev.
Après des violences à Jérusalem, tirs de roquettes vers Israël et frappes sur Gaza.
Ici aux États-Unis, une juge annule l'obligation du masque dans les transports publics.
Et ne manquez pas notre page sport avec Yacouba Ouedraogo ainsi que la Minute Écho.
Pour l'instant, le journal.
En Centrafrique, la Cour pénale spéciale ouvre son premier procès aujourd'hui, mardi, à Bangui. C'est 7 ans après sa création pour juger les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis depuis 2003. Le point avec Lionel Gaïma.
La Cour pénale spéciale tribunal, composée des magistrats nationaux et internationaux, tient ce mardi son premier procès pour juger Issa Saleh Adoum, Ousmane Yaouba et Tahir Mahamat, trois membres d'un groupe armé appelé les 3R. Ils sont accusés du massacre de 46 civils dans le nord-ouest du pays. L'ouverture de ce procès survient 5 mois après l'arrestation à Bangui par des policiers de la CPS de Hassan Bouba, ministre de l'élevage et ancien chef rebelle. Quelques jours après, il a été exfiltré de prison par des gendarmes pour être décoré par le chef de l'État de l'Ordre national du mérite. La CPS se heurte à des obstacles parfaitement illustrés par cette affaire, déplore Nicolas Tiangai, avocat et défenseur des droits de l'homme. La CPS ne peut même pas compter sur le soutien de 14 000 casques bleus de la MINUSCA. Il y a au moins 25 mandats d'arrêt, mais ni la MINUSCA, ni les autorités, ni les exécutent, dénonce Alice Banens, conseillère juridique pour Amnesty International. La CPS est aussi affaiblie car les deux derniers juges étrangers ont pris leurs fonctions en février et des postes importants restent encore vacants selon Human Rights Watch.
Au Mali, la junte militaire au pouvoir à Bamako a annoncé hier avoir reçu pour les forces armées maliennes une nouvelle livraison d'équipements russes incluant 2 hélicoptères de combat et des radars. Précision de John Linden.
Nous recevons ce 2e lot d'équipements militaires en provenance de la Russie. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux avec l'État russe, a déclaré le général de division Omar Diarra, chef d'état-major général, selon un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des armées. La livraison porte sur 2 hélicoptères, des radars de 4e génération et d'autres équipements de combat, indique le compte Twitter des forces armées maliennes. Bamako avait déjà réceptionné le 31 mars 2 hélicoptères de combat et des radars provenant toujours de la Russie. Les colonels qui ont pris le pouvoir par la force en août 2020 dans un Mali en pleine tourmente sécuritaire se sont rapprochés de la Russie et se sont détournés de la France, engagés militairement dans la lutte contre les djihadistes depuis 2013. Paris a annoncé en février le retrait de ses soldats du Mali, une opération qui devrait être achevée cet été.
Des dizaines de réfugiés africains ont participé hier pour le 3e jour consécutif à un sit-in devant les bureaux de l'ONU à Tunis. Ils réclament d'être évacués vers d'autres pays. Le point avec Abdourahman Dia.
Nous réclamons le respect de nos droits élémentaires. Nous voulons être évacués vers n'importe quel autre pays qui respecte les droits humains et la dignité humaine, a déclaré Saleh Saïd, un Soudanais de 24 ans, originaire du Darfour et bloqué en Tunisie depuis 4 ans. Munis de couvertures, les réfugiés, parmi lesquels figurent de nombreuses femmes et enfants, passent la nuit sur les cartons étalés à même le sol au milieu de valises contenant leurs affaires personnelles. Ces réfugiés, majoritairement des rescapés de tentatives d'immigration clandestine par la mer vers l'Europe, observent depuis samedi un sit-in devant le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans la capitale tunisienne. Des migrants et des réfugiés originaires, notamment d'Afrique subsaharienne, se plaignent régulièrement d'être victimes de violences verbales et physiques dans ce pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces russes ont déclenché leur offensive contre l'est de l'Ukraine, qu'elles bombardent massivement, tout en poursuivant leurs frappes dans l'ouest, ont annoncé lundi les autorités ukrainiennes. Peu importe combien de soldats russes sont amenés jusqu'ici, nous combattrons, nous nous défendrons, a assuré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, va boycotter certaines sessions du G20 Finance si la Russie y participe. Elle va représenter les États-Unis cette semaine lors des assises de la Banque mondiale et du FMI, a indiqué hier à la presse un responsable du Trésor, Eric Manirakiza.
La secrétaire au Trésor, Yellen, renforcera l'engagement des États-Unis en faveur du multilatéralisme et fera progresser les priorités politiques américaines en matière de reprise économique inclusive, a précisé le Trésor dans son communiqué. La taxation mondiale sur le numérique, la lutte contre la crise climatique, ainsi que la crise mondiale croissante de la sécurité alimentaire résultant de la guerre brutale et illégale de la Russie contre l'Ukraine feront également partie des sujets mis en avant par Washington. La ministre de l'économie et des finances de Joe Biden a cependant prévu de participer à la réunion d'ouverture du G20 Finance consacrée à l'économie mondiale. Elle réunira en partie virtuellement mercredi les ministres des finances et banquiers centraux de ces pays, dont la Russie. Le président américain Joe Biden est favorable à l'exclusion de la Russie du G20. Plusieurs pays du G7 pourraient quitter la réunion du G20. Lorsque la Russie s'exprimera, avait également indiqué vendredi le ministère français de l'économie et des finances, précisant que plusieurs États, en particulier la France, ont demandé l'invitation du ministre ukrainien des finances au G20, notamment.
Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a annoncé pour sa part qu'il préparait un paquet d'aide de 170 milliards de dollars sur 15 mois pour aider les pays à faire face aux multiples crises, dont la crise humanitaire et alimentaire provoquée par la guerre en Irak.
Aux États-Unis, une juge a déclaré hier illégale l'obligation fédérale du port de masque dans les transports publics, une mesure de la principale agence sanitaire fédérale âprement combattue devant les tribunaux. Michel Joseph.
La magistrate Catherine Campbell Mizell, qui siège à Tampa, en Floride, a estimé que les CDC, Centre américain de prévention et de lutte contre les maladies, ont outrepassé leurs prérogatives en imposant cette obligation qui s'applique aux avions, aux trains, aux métros et aux autocars. L'administration de Joe Biden s'est retrouvée sous une pression croissante pour assouplir ou annuler cette mesure. Une vingtaine d'États, dirigés par les Républicains, et plusieurs grandes compagnies aériennes ont demandé la fin du masque obligatoire dans les avions et autres transports publics. Mais la semaine dernière, les autorités fédérales ont pris la décision de prolonger l'obligation du port du masque au moins jusqu'au 3 mai.
L'armée israélienne a mené tôt ce mardi des premières frappes aériennes depuis des mois sur la bande de Gaza en représailles à un tir de roquette depuis cette enclave palestinienne, signe que les tensions locales ne donnent aucun signe d'apaisement après un week-end de violence sur les lieux saints à Jérusalem.
L'ancien attaquant vedette ivoirien Didier Drogba a promis hier une nouvelle ère s'il est élu président de la Fédération ivoirienne de football. Drogba se dit confiant face à ses deux adversaires, Yacouba Ouédraogo.
Didier Drogba met en avant son programme appelé Renaissance. Il entend réorganiser le football ivoirien et promet une augmentation des subventions au club.
Le programme Renaissance s'articule avant tout autour du bien-être des acteurs sans lesquels le football ne saurait exister. Les présidents de club, personnages centraux dans le dispositif,
à qui je souhaite donner les moyens nécessaires afin qu'ils insufflent de nouveau un sentiment d'espoir, d'apaisement, de performance et d'excellence à l'ensemble des maillons de la chaîne.
L'ancien capitaine des éléphants souligne aussi l'importance des infrastructures sportives.
Les infrastructures sont à la fois essentielles à développer, à moderniser, à entretenir, afin de bénéficier rapidement d'un parc de stades et de centres de formation décentralisés, permettant d'élever le niveau des championnats, d'attirer les sponsors et de faire éclore de nouveaux talents. C'est de ça qu'il s'agit.
Pour les opposants à Didier Drogba, être une star ne suffit pas. Samedi, lors de l'élection à Yamoussoukro, Drogba fera face à Idriss Diallo et Sori Diabaté, deux autres candidats anciens responsables de la fédération. L'élection du nouveau président ne sera validée qu'une fois connus les résultats d'une enquête d'intégrité à laquelle ils doivent tous se soumettre.
La Minute Éco, Mohamedou Houmfa.
Le gouvernement camerounais négocie auprès du Fonds international de développement agricole un financement de 21 milliards de francs CFA pour booster sa production de poissons. Étalé entre 2023 et 2029, ce projet devrait renforcer la production nationale aquacole pour la porter à 25 000 tonnes par an. Les premiers mois de l'année 2020, le Cameroun a importé 57 000 tonnes de poissons congelés selon les données de l'Institut camerounais de la statistique. La Banque des États de l'Afrique centrale a réalisé un excédent budgétaire de 82 millions de dollars en 2021, a révélé le comité ministériel des pays membres lors d'une session ordinaire à Douala le 14 avril, une hausse de 61% par rapport au précédent exercice. Cette performance découle notamment, selon Financial Afrique, de l'accélération du processus de rapatriement des devises en Afrique centrale suite à l'implémentation d'un nouveau règlement sur l'échange. Au Maroc, les députés ont réclamé lundi le plafonnement des marges jugées exorbitantes des distributeurs de carburant dans un contexte de flambée des prix. Lors d'une séance plénière au Parlement, le chef du gouvernement, lui-même magnat du pétrole, a balayé ses critiques, relevant que les marges actuelles se situent au même niveau observé en 1997. Il a souligné que les recettes budgétaires additionnelles induites par la hausse du prix des carburants permettront au gouvernement de soutenir les secteurs en crise.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Basketball Africa League. Pour commencer, on connaît les quatre qualifiés de la conférence Nil pour les playoffs prévus à Kigali au Rwanda avant même les derniers matchs prévus ce soir. Hier, les Camerounais de FAP ont réalisé le bon coup en s'imposant devant un concurrent direct, Cobra Sport du Soudan du Sud, 71-64. FAP qui affronte ce soir le Zamalek déjà qualifié est sûr de finir au pire des cas à la quatrième place qualificative pour les playoffs. Les carottes sont par contre cuites pour les Congolais d'Espoir Foukache, dominés hier par les Angolais de Petro de Luanda, 94-64. C'est la quatrième défaite en quatre matchs pour les Congolais éliminés, ce qui rend anecdotique leur dernier match de ce soir face aux Sud-Africains de Cape Town Tigers. En somme, sont qualifiés pour les playoffs le Zamalek d'Égypte, Petro de Luanda, Cape Town Tigers et FAP. Les playoffs auront lieu à Kigali au Rwanda du 21 au 28 mai prochain. Ici, en NBA, le joueur des Celtics, Marcus Smart, a été désigné meilleur défenseur de la saison. Smart a cumulé 257 points attribués par un panel de 100 journalistes du monde entier. L'ailier Michael Bridges de Phoenix est deuxième avec 202 points. Le pivot français Rudy Gobert, troisième avec 136 points. Ce dernier, déjà lauréat de ce trophée trois fois en 2018, 2019 et 2021, manque de rejoindre Dikembe Mutombo et Ben Wallace au rang des plus primés de l'histoire. Marcus Smart est le premier meneur à recevoir cette récompense depuis Gary Payton en 1996, lorsqu'il évoluait au Seattle Supersonic, et il est le deuxième de Boston après l'intérieur Kevin Garnett en 2008. Athlétisme, la Kenyane Peres Jepchirchir a remporté hier en 2h21min1s le 126e marathon de Boston. Elle a devancé de justesse l'Éthiopienne Ababel Yeshainei, La Kenyane Mary Wasira Ngugi complète le podium. C'est la première victoire à cette course américaine pour celle qui a été championne olympique à Tokyo l'an passé. La coureuse de 28 ans a décroché sa 5e victoire consécutive depuis 2019 et sa 2e dans un marathon majeur. Après celui de New York en 2021, les 4 autres étant Berlin, Tokyo, Londres et Chicago.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les familles biologiques et politiques du défunt maréchal Idriss Déby Itno commémore l'an 1 de sa disparition brutale. Son décès est survenu à la veille de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle pour son 6e mandat, où il était donné gagnant au premier tour par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Réaction des Tchadiens un an après cette tragédie. Dans ce reportage d'André Kotmajingar, notre correspondant N'Djamena.
Décédé sur le champ de bataille le 20 avril 2021 au nord Kanem suite à l'assaut lancé par les rebelles du FAT, le Tchadien se rappelle encore de cet homme qui a dirigé le pays pendant 31 ans.
Physiquement, Déby est mort, mais son système politique est resté intact.
Quand il était là, même on était vraiment souffrant. Et maintenant, il est mort. Peut-être qu'il y aura changement. Nous pensons comme ça, mais désolé, c'est le calvaire que nous vivons.
C'est un président qui pensait quand même tourner la page du Tchad. Mais certains ne comprenaient pas l'idéologie de Déby. Et quand Déby est c'est vraiment difficile à combler.
Pour le peintre Dunia Togiangar, écrivain panafricaniste et libre penseur, Déby a fait beaucoup d'erreurs pendant son règne qu'il devrait corriger avant de mourir.
Vous gérez le pays pendant 31 ans et le pays tombe dans une crise généralisée et vous-même vous tombez brutalement. C'est vraiment pas bon pour Idriss Déby en tant que tel et aussi pour le pays qu'il a dirigé. J'ai retenu une chose que la première dame de l'époque a dit. Elle dit que le maréchal est parti et nous a laissé dans un désert mouvant. Mais c'est vrai.
La disparition du président Déby est non seulement une perte pour les Tchadiens, mais aussi pour toute l'Afrique, déclare au micro de VOA Afrique Abdelkader Babalade, ex-chef rebelle, aujourd'hui secrétaire général adjoint du ministère en charge de la sécurité publique.
Aujourd'hui, en Afrique, si vous êtes un Tchadien, vous êtes respecté. Parce que c'était d'abord l'ombre de maréchal. Pour lui, ce n'était pas seulement le Tchad, mais toutes sortes de désordres dans la sous-région, il n'acceptait pas. C'est non seulement un homme de conviction, c'est un homme d'État.
Pour Louise Ngaradombri, présidente du parti Rassemblement pour le Progrès et la Justice Sociale, estime que le président Déby n'a pas maîtrisé son administration.
C'est vrai que c'est un homme d'État, mais il a laissé le pays à la portée de son clan. L'armée est devenue une armée pour la défense des individus qui sont au pouvoir et l'insécurité a régné et c'est par suite de cette insécurité qu'il est tombé. Voilà la triste réalité.
L'ancien député de l'opposition Baïdé Samuel Diaonadi dit qu'il ne regrette pas sa disparition.
Depuis nous a créé du désordre. Si aujourd'hui on est dominé par des éleveurs acquis à la cause du pouvoir qui empêchent à mes parents de cultiver comme il se devait, si ce n'est pas lui qui sera l'origine, tout ce qui est problème que nous gérons aujourd'hui sur le plan politique, économique et social, c'est dédié à l'origine.
Abdraman Diasnabaï, ambassadeur de la paix et ancien ministre des droits de l'homme sous le règne du feu président Déby, souligne que la responsabilité est partagée.
Je pense que le domaine qu'il maîtrise le mieux, c'est le domaine militaire. L'aspect administration, c'est le comportement des Tchadiens. Les Tchadiens n'ont pas pris leur pays, le Tchad, comme objectif. Chacun cherche ses propres intérêts. Donc on ne peut pas dire que la faute revient essentiellement au défunt maréchal, non. C'est à tous les Tchadiens.
Les militants du parti et les membres de la famille du feu maréchal Déby se retrouvent tous à Amdjara, son village natal, où sa dépouille mortuaire se repose depuis une année pour une cérémonie de levée des deuils. André Kotmajingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine. Le Tchad, un an après la mort du maréchal Idriss Déby Itno. L'ancien dirigeant tchadien a été tué au front le 20 avril 2021 et aussitôt remplacé par son fils, le général Mahamat Déby Itno. Pour l'opposition, c'est la continuité du système Déby alors que le pouvoir poursuit des pourparlers difficiles avec des groupes politico-militaires au Qatar en prélude au dialogue national prévu le mois prochain. Quel est l'héritage d'Idriss Déby pour le Tchad et la région? La transition menée par son fils était sur les rails pour les remises du pouvoir à un gouvernement élu. Rendez-vous ce jeudi à 19h05 universel sur VOA Afrique.com.
Au Sénégal, très fortement décrié par une partie de l'opinion lors de son lancement, en raison notamment d'un investissement jugé trop onéreux par certains, le train express régional se positionne déjà comme une solution à l'engorgement de la capitale Dakar, en facilitant le transport vers la banlieue à des milliers de Sénégalais. Reportage de Seydina Abagay.
Il est 18h, passé de quelques minutes au centre-ville de Dakar et les bouchons s'étalent sur plusieurs centaines de mètres. Non loin du port de Dakar, une imposante bâtisse très colorée sert de gare pour le train express régional en sigle TER. Des dizaines d'usagers convergent vers le lieu pour regagner leur domicile. Au fil des mois, le TER est devenu une véritable alternative aux embouteillages, comme l'affirme Matar Touré, usager du TER.
Énormément de temps. Présentement, comme moi, de Tcharoy à Dakar, 17 minutes, on est à Tcharoy, on est chez nous. Donc, si on prenait l'écart, on allait faire 2 heures de temps, ou plus même, à cause des embouteillages. Non, c'est confortable dans la mesure où il y a des tickets mensuels, des abonnements, 15 000 francs le mois. Ça nous revient à 500 francs. Le jour.
Très controversé avant ses débuts, le TER est aujourd'hui globalement bien apprécié. Des usagers comme Yaya estiment que malgré le coût jugé onéreux par certains, l'investissement semble se justifier, surtout en cette période de Ramadan.
Le train express régional est vraiment utile, même si c'est cher, ça vaut le coup. Son utilité est le plus important. Moi, j'habite Guédiouaille, dans la banlieue de Dakar. Si j'étais sur l'autoroute, j'allais rompre le jeûne dans les embouteillages. Ça nous permet d'être à temps chez nous. En plus, les gens viennent de plus en plus nombreux le prendre. D'ailleurs, au premier jour du Ramadan, il y avait des bousculades et des portes ont été endommagées. Mais maintenant, les gendarmes gèrent cela.
Face à l'absence apparente de solution face aux embouteillages qui étouffent Dakar, des automobilistes estiment qu'il est nécessaire d'étendre le TER et les chemins de fer à d'autres zones. Madame Cham, automobiliste et usager du TER.
Si ça coûte 2 milliards, 5 milliards, 50 milliards, mais l'essentiel, les résultats sont en rendez-vous. Je suis sûre et certaine qu'étant automobiliste, aujourd'hui, si on pouvait avoir la possibilité de desservir pratiquement presque les grands axes qui se trouvent au niveau de Dakar et même dans les régions, moi je n'hésiterais pas à habiter en dehors de Dakar et prendre cela. Parce que là, au moins, je gère le temps. Et là, avec la route, je ne gère pas le temps.
Pour beaucoup de Sénégalais, l'utilité principale du train express régional est le gain de temps qu'il offre dans une ville qui est étouffée et très polluée par le nombre de voitures. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les réfugiés congolais et burundais hébergés dans le camp de Mahama dans l'est du Rwanda s'inquiètent des grossesses des mineurs dans ce camp. Ils souhaitent que ceux qui causent ces grossesses soient punis de façon exemplaire. De Kigali, Jean Damascène, Manishimwe.
Clarisse Ouera, c'est un pseudonyme donné à cette adolescente âgée seulement de 16 ans du camp des réfugiés de Mahama à l'est du Rwanda. Tombée enceinte, Clarisse a été obligée de quitter l'école pour pouvoir prendre soin de son bébé. Quelques mois après, elle a pu reprendre le chemin de l'école. Elle a une facilité de passer à la maison pour allaiter son fils, aux heures indiquées.
Quand je vais à l'école, je lui laisse du lait. Âgé de plus d'une année, il prend du lait. À midi, on me donne l'autorisation de venir pour l'allaiter. Avant, il m'était très difficile d'étudier. Mais je me suis calmée et je n'ai aucun problème.
Malgré cette situation, Clarisse est loin de se décourager. Elle est déterminée à poursuivre ses études jusqu'au niveau universitaire pour s'assurer un avenir meilleur.
Je veux étudier et terminer mes études et si possible aller jusqu'à l'université pour mieux préparer mon avenir. Je suis en première année de secondaire.
Ce problème n'est pas le propre de Clarisse, mais plutôt partagé par de nombreuses adolescentes.
Elles peuvent être violées par force, mais aussi certains hommes se servent des objets matériels pour séduire ces adolescents.
Pour le moment, le nombre total des jeunes adolescentes qui sont tombées enceintes n'est pas connu, mais le seul camp de Mahamalet du Rwanda compte environ 150 jeunes filles qui ont regagné l'école après qu'elles les aient mis au monde. La ministre rwandaise ayant les réfugiés dans ses attributions, Marie-Solange Kayisire, indique que le Rwanda est résolu à assister ces adolescentes au quotidien.
Nous avons mis en place différentes politiques de formation et de sensibilisation pour aider les jeunes filles à connaître leurs droits et leurs responsabilités. Celle qui par malheur tombe enceinte n'est pas délaissée. Nous l'accompagnons dans la prise en charge de l'enfant pour qu'elle retourne à l'école pour son bien dans l'avenir.
Le camp de Mahama à l'est du Rwanda compte plus de 55 000 réfugiés congolais et burundais, alors que le pays dénombre au total environ 130 000 réfugiés. Les femmes et les enfants constituent 75% de la population totale de ces réfugiés. Jean Damascène Manichimwe, VOA Afrique, à Kigali.
Au Burkina Faso, c'est une initiative qui, depuis 15 ans, lutte contre la drogue. La caravane dénommée Oskimo Tour Jeunes Propres Sans Drogue est un événement d'un musicien Issouf Sawadogo, dit Oskimo. La caravane a été lancée depuis une semaine et va parcourir cette année des établissements scolaires du pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le lancement de la caravane Oskimo Tour Jeunes Propres Sans Drogue se fait ici au lycée Rialé de Tenkodogo dans le centre-est, à près de 200 km de la capitale. Oskimo Tour est une caravane de sensibilisation sur la drogue en milieu jeune. Le thème de cette 15e édition, zéro consommation de drogue en milieu scolaire. Je m'engage. Des élèves apprécient l'initiative.
Oskimo Tour, bon, la caravane, bon, je vois que le départ même, ça nous influence avec ce qu'ils ont dit. Et on nous a donné des sujets qui nous touchent beaucoup, qui peuvent nous permettre de changer et sensibiliser nos camarades dans les différentes classes, au niveau social aussi, à la maison. Bon, zéro drogue, je m'engage. Je pense que le message a été bien passé.
Cette caravane a été d'une très grande importance pour les élèves du lycée Rialé. Promouvoir zéro drogue en milieu scolaire est vraiment une très bonne idée parce que, bon, ça nous prépare déjà à combattre déjà les fléaux de la société.
Cette milieu scolaire est beaucoup aujourd'hui infecté par la consommation de la drogue des élèves.
Issouf Sawadogo, dit Oskimo, est le promoteur de la caravane.
Le choix de Tenkodogo aussi, c'est le centre-est. C'est une zone frontalière au moins trois pays. Tu as le Togo, le Bénin, le Ghana. Donc je me suis dit, et récemment il y a eu une grande saisie, quantité de saisie de drogue ici. Donc on s'est dit, pourquoi pas n'est pas venu sensibiliser cette jeunesse-là, surtout les élèves qui sont des pionniers de demain. Par rapport à l'accompagnement, vous voyez, nous sommes venus ici, ce n'est pas facile, l'année est difficile, le pays est en difficulté. L'État burkinabé doit s'impliquer davantage si on veut gagner d'autres vrais combats, qui est le terrorisme ou l'insécurité. Il faut gagner ce combat de lutte contre la drogue et de la sensibilisation.
Et les services de douane se sont engagés auprès du promoteur. Moulay Jean Dambélé, inspecteur divisionnaire des douanes, directeur régional des douanes du Centre-Est.
Déjà au niveau des frontières et dans la vie de tous les jours, les douaniers luttent au quotidien, non seulement pour les recettes, mais contre tout ce qui est néfaste à notre société. Nous sommes à peu près à 280 000 tonnes pour ce pays et c'est ça ce qu'on a pu. On a pu prendre et ce qu'on n'a pas pu prendre, c'est compliqué. Donc pour les milieux scolaires, il n'y a que de la sensibilisation que la douane puisse faire. La drogue en milieu scolaire est très mauvaise.
La caravane au Skimo Tour Jeunes Propres Sans Drogue qui a commencé début avril va se poursuivre jusqu'à fin mai. Elle va traverser au moins 6 villes et plusieurs établissements scolaires du Burkina. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebouya et de Nanit Kanani. Michel Joseph était à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.